Voilà, on va se donner une heure à peu près. Dans cette heure, je vais essayer de vous présenter certains faits importants sur l'islam. Pendant 45 minutes, un peu moins, un peu plus, suivant ce que je vais pouvoir tenir. Et puis après, ce que je vous propose, dans la simplicité, c'est qu'on fasse des questions. Donc des questions par rapport à ce que ça a pu vous apporter et aussi à vos interrogations concrètes. Pour ça, j'ai besoin peut-être d'un petit sondage d'abord. Alors, qui a l'impression de ne pas connaître grand-chose à l'islam ? Ok. Donc alors, je vais commencer par présenter ce qu'on fait, nous, dans la communauté. Donc, j'appartiens à une société de prêtres missionnaires, comme a dit le père François. Et cette société, eh bien, elle a dans ses constitutions un impératif de mission, et de mission spécialement auprès des musulmans. Donc ça veut dire qu'on évangélise à tout azimut, mais on a une formation spéciale pour toucher les musulmans et pour essayer d'aller les rejoindre là où ils en sont. Alors pour ça, eh bien, on organise plusieurs activités dans un cadre paroissial. Donc on a une paroisse personnelle à Toulon, on a une autre paroisse à Marseille et encore un petit bout de paroisse à Draguignan. Et donc dans ces paroisses-là, on essaye de mener la mission en coopération avec les paroissiens. Donc pour ça, en fait, on a plusieurs activités mensuelles. On a une mission de rue le samedi après-midi. Donc en fait, on fait du porte-à-porte. Ah ouais, comme les témoins de Jéhovah, mais avec autre chose derrière. Et on va aussi rencontrer les commerçants, mettre une présence chrétienne dans le quartier. Et puis on va aussi ouvrir les portes de l'église, faire une exposition du Saint-Sacrement et inviter tout simplement les gens à venir prier et en tout cas à venir discuter avec nous de la foi chrétienne. Et donc comme nous, on habite dans des quartiers qui sont très musulmans, Draguignan, c'est très musulman le centre-ville. Toulon, c'est 80% de musulmans dans un certain quartier du centre-ville. Et Marseille, je ne vous en parle pas. Donc en fait, très souvent des contacts avec des musulmans. Alors non seulement on fait ces missions du samedi après-midi, mais on organise aussi des missions du vendredi soir, où là on sort un peu plus dans la rue le vendredi soir, on ouvre les portes de l'église et on a un autre contact différent, parce que la nuit, ça ne marche pas exactement pareil qu'en journée, mais c'est aussi très intéressant. On essaye aussi d'animer le quartier, c'est-à-dire d'organiser un repas des voisins. Donc un repas des voisins, quand dans les immeubles autour de vous, il y a principalement des musulmans, ben, ça aide aussi pour le contact avec l'islam. On organise aussi la fête de la musique. On a des talents musicaux dans la communauté, ce qui nous permet de faire passer certains messages. Et puis aussi, on a un camp de jeunes, on a un camp d'été qu'on organise tous les ans, qui a pour principal but la mission et on fait une mission sur les plages du Mourillon. C'est un quartier de Toulon. Et donc on organise une mission sur les plages qui est intéressante à plus d'un titre, et je vous en reparler. Donc voilà, on a plein d'activités missionnaires. On a des contacts assez réguliers avec les commerçants, avec les voisins, avec les passants dans la rue. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette conférence sous la forme de témoignage. Je ne vais pas vous faire une grande conférence sur l'islam, mais je vais vous parler un peu du vécu, de ce qu'on peut vivre quand on essaye de faire de la mission auprès des musulmans, et des points importants qu'on retient à force d'en faire, en tout cas pour la petite expérience que j'ai. Parce que je suis pas beaucoup plus vieux que les plus vieux d'entre vous, je vais avoir 25 ans cet été, donc vous voyez, c'est pas non plus, je ne peux pas non plus parler ex cathedra. Voilà. Alors, d'abord un point sur la mission auprès des musulmans. Bon, je ne vous rappelle pas les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Vous savez que l'évangile, le jour de la Pentecôte, a été prêché en arabe aussi. Donc ça veut dire que notre mission, notre annonce de l'évangile, elle ne doit pas se limiter à des groupes de population, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans. L'évangile, c'est pour tout le monde, c'est pour tout homme. Et on ne doit pas se limiter par pusillanimité, par faiblesse, à vraiment toucher le cœur de tous, et spécialement de ceux qui sont les plus éloignés de nous, les plus étrangers à notre culture, les plus étrangers tout court à notre pays. Et donc ça, ça nous force à faire des efforts, mais ça va aussi, par l'effet qui se coule, on peut appeler ça comme ça, ça va aussi nous apporter des bienfaits de la mission auprès des musulmans. Alors moi j'identifie trois bienfaits personnellement. Le premier bienfait, c'est que cette mission, elle nous oblige concrètement à la charité. Elle nous oblige à aller à l'extérieur de nous-mêmes, encore plus que si on va rencontrer un athée. Parce qu'un athée, en France, il restera toujours français, il aura toujours une culture française, il aura toujours certains repères historiques français, il aura certaines manières françaises. Et donc, on se sent moins dépaysé quand on va discuter avec un athée, aussi dur soit-il, que quand on va discuter avec un musulman. Et donc ça nous oblige à découvrir, à écouter l'autre et à vraiment faire un effort de charité supplémentaire. Spécialement quand dans l'islam, il peut y avoir des situations qui sont critiques, qui sont très très dures. Donc par exemple, là, j'ai un de mes frères, il y a 2 semaines, il a eu des confidences d'une jeune musulmane du quartier. Cette jeune femme qui avait pas loin de 20 ans, vous voyez, 20 ans à peu près. Donc pour certaines, vous pouvez déjà vous sentir un peu proche, concerné en tout cas. Eh bien, elle était mariée depuis un âge de 17 ans, je crois, avec un homme dans l'islam. Et cet homme l'avait frappée, et frappée alors qu'elle était enceinte. Et ses sévices avaient provoqué un avortement. Vous voyez, donc parfois on peut avoir des choses qui sont assez horribles autour de nous, et avoir ce contact avec les musulmans, ça nous pousse à la compassion, ça nous pousse à exercer vraiment une charité telle que le Christ l'avait aussi veut aussi qu'elle soit en nous pour tout homme. Donc ça, c'est patent quand on discute avec les musulmans. Une autre chose aussi, c'est que la mission auprès des musulmans, elle nous fait prendre conscience de la force du Saint-Esprit. Parce que il y a tout qui nous sépare quelque part. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Et quand on arrive à discuter, quand on arrive à tisser certains liens avec des musulmans, quand on arrive à les toucher, mais parfois ça peut arriver, c'est assez difficile, mais ça peut arriver qu'on arrive à les toucher, à avoir une discussion très constructive avec eux, qu'on ait des bons retours de ces discussions-là. Et ben là, on se sent toujours un peu petit. On dit, qu'est-ce que j'ai dit de plus que d'habitude? J'ai pas dit grand-chose. Mais on sent aussi que voilà, le Saint-Esprit, c'est pas de la blague. C'est pas quelque chose qui a été fait pour une certaine civilisation, pour une certaine culture. C'est pas quelque chose de purement historique. Les raisons de la foi, elles ne s'expliquent pas que par des déterminismes sociaux. Et il y a vraiment une force qui agit à travers nous. Forcément, pas comme une boule magique, hein, mais aussi avec, en passant par notre prudence, en passant par notre sagesse, en passant par notre intelligence. Eh bien, cette force du Saint-Esprit, elle est faite pour tout homme et elle est faite pour se propager. C'est un feu qui va venir dévorer tout ce qu'il y a autour de nous. Si on essaye d'être disponible à ça. Donc, la mission auprès des musulmans, par ses côtés ardus, eh bien, par contre-coup, elle peut nous faire aussi sentir cette force qui agit à travers nous. Et j'ai des témoignages de paroissiens qui sont venus faire de la mission avec des prêtres de notre communauté et qui ont été justement touchés par cet aspect-là. Et puis un des derniers aspects, et non des moindres, c'est que la mission auprès des musulmans, elle nous oblige spécialement à mieux connaître notre foi et spécialement à mieux connaître la Bible et à mieux connaître l'Évangile. Parce que les musulmans, en fait, qu'est-ce que c'est l'islam ? C'est une religion post-chrétienne. Donc, dans l'islam, il y a des principes apologétiques anti-chrétiens, anti-Jésus, anti-crucifixion. La croix est niée par le Coran. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ça, en fait, quand vous allez... Bah, la plupart du temps, on tombe sur des musulmans qui connaissent très mal leur foi, qui bredouillent, qui bafouillent quelques trucs. Mais de temps en temps, vous allez aussi tomber sur des salafistes ou des affiliés qui sont très affûtés, qui ont une apologétique agressive et qui vont vous parler de la Bible comme d'une annonce de Mahomet, qui vont vous parler de l'Évangile comme le prologue à l'islam, qui vont vous chatouiller, qui vont vous donner des raisons qui sont parfois bien trouvées pour embrasser l'islam. Donc ça vous oblige à être clair avec vous-même, ça vous oblige à approfondir votre foi, ça vous oblige à approfondir les raisons pour lesquelles vous croyez et comment vous interprétez et comment vous lisez la Bible. Donc ça peut être spécialement intéressant. Alors, je peux vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Jean chapitre 16, mais au chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean, on lit cette chose-là. Jésus parle à ses apôtres. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et plus loin, au verset 13, « Ce même défenseur vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Si vous tombez sur un musulman qui a lu certains sites internet, qui a lu certains ouvrages apologétiques musulmans édités en Arabie Saoudite et distribués largement en France, il va vous dire « Ce défenseur dont parle l'Évangile ici, c'est Mahomet. Jésus annonce Mahomet. » Bonjour, entrez. Je vous en prie, on est en train de parler de l'islam. Et donc, je vous fais la confidence, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais dans la rue, j'ai discuté avec un musulman qui avait cette approche apologétique, et ça m'a troublé. Alors bien sûr, j'y ai pas cru une seule seconde, vous voyez ce que je veux dire, mais sur le coup, j'ai pas su lui expliquer pourquoi ce défenseur, en grec, ce parakletos, n'est pas Mahomet. Et ce qui est vraiment bête, c'est que dans le même évangile selon saint Jean, au chapitre 14, Jésus dit ceci. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Il sera en vous. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc vous voyez que on ne peut pas identifier ce parakletos, on ne peut pas identifier ce défenseur-là avec Mahomet, parce que Mahomet n'est pas resté éternellement avec nous, Mahomet est né, Mahomet est mort, et Mahomet n'est pas en nous. Donc ce même mot qu'ils identifient à Mahomet, c'est incompréhensible dans l'évangile selon saint Jean, c'est complètement illogique. Mais là, vous savez, si j'avais pu avoir la répartie de dire « Non mais écoute, tu me racontes n'importe quoi, lis deux chapitres avant et tu verras que ce que tu dis est impossible. » Vous voyez, ça ne fait pas du tout le même témoignage que si vous restez abbé comme ça, à ne pas savoir quoi dire et qu'il en ait l'impression d'en apprendre à un chrétien sur l'évangile, sur son propre livre. Donc ça, c'est important, vous voyez, d'arriver avec une certaine connaissance, d'arriver affûté, quoi. Alors maintenant, l'islam nous pose plusieurs problèmes, je parle même à nous qui avons un début de formation, je veux dire. L'islam nous pose un certain problème au niveau de l'attitude. Les musulmans, ils ont une attitude qui est différente des autres gens que vous allez rencontrer dans la rue. D'abord, ils aiment beaucoup parler de l'islam, ils aiment beaucoup parler de leur foi. Ils peuvent parler pendant des heures et même à certains moments, quand vous allez engager des conversations à un musulman pour lui annoncer l'évangile, ce qui peut se passer, c'est un retournement de situation. C'est-à-dire qu'il s'enflamme tellement qu'au bout d'un moment, il va essayer de vous convertir à l'islam plus ou moins indirectement. Il va vous parler des merveilles du Coran, il va vous parler des miracles de Mahomet, il va vous parler de toutes les belles choses qu'il voit dans l'islam et vous ne pouvez plus en placer une et puis vous écoutez et puis au bout d'un moment, vous êtes dépassé. J'ai même, une fois, j'étais en évangélisation de plage, donc on se baladait sur la plage en binôme. Et donc il y a un musulman qui voit des binômes de chrétiens c'est visible, hein, ils vont de personne en personne pour leur parler de l'évangile. Et en fait il me voit, moi j'étais avec une autre personne à côté de moi, et puis il me voit passer, et il me fait « Hé toi, viens !» Et donc vous voyez, c'était un peu le style, un peu voyou quoi, un peu wesh. Et du coup il me voyait passer au loin, il me dit « Hé toi, viens !» Et puis quand j'arrive, et ben, il commence à me parler de l'islam, enfin il avait tout de suite compris le truc, et lui ce qu'il voulait c'était limite inverser la logique quoi. Donc c'était, enfin, parfois vous... Alors ça pose des problèmes, mais en même temps c'est très intéressant parce que ça facilite le contact sur un certain point. Et puis en même temps, il ne faut pas se leurrer, il y a un énorme fossé culturel à dépasser. Et donc certains musulmans, ils parlent à peine français. En tout cas à Toulon, ça arrive de rencontrer des personnes qui ont 60, 65 ans, qui sont en France depuis 30 ans et qui parlent un français exécrable. Une fois, j'ai été invité à manger le couscous par un voisin, il parlait comme ça. « Oh, j'entends les gens intelligents !» Et voilà, il y a un côté, il savait vraiment très mal parler français, et pas seulement par l'accent, mais aussi parce qu'on était incapable d'avoir une discussion avec une certaine élévation des concepts, parce qu'il savait parler les mots du langage courant, le pain, l'eau, mais derrière, ça volait pas haut, quoi. Et donc, ça peut être vraiment très difficile d'avoir une conversation construite avec un musulman qui bafouille le français. Et puis même au-delà du français, vous voyez bien, enfin je ne vous fais pas un dessin, mais quand la personne, quand votre interlocuteur en face de vous, elle est habillée en survêtement un peu gras, qu'elle a un style assez voyou prononcé, qu'elle comprend absolument pas l'utilité du vouvoiement, et puis que vous êtes un peu dans vos manières polissées, au bout d'un moment, il y a quand même des murs qui s'installent, et ça, va falloir les traverser. Et donc c'est pas évident. C'est vraiment pas évident du tout, même quand on sait ça, de trouver une attitude qui soit juste, de trouver une attitude qui soit assez familière pour se mettre à l'aise avec la personne qu'on va rencontrer, sans tomber un peu dans le cliché et sans tomber dans l'artificiel. Donc ça, c'est vraiment un charisme pour ceux d'entre vous qui... Il y en a peut-être parmi vous qui ont ça, qui arrivent à avoir une simplicité un peu naturelle. Et ben, enfin, je vous encourage à utiliser ça et en tout cas à l'exercer quand vous discutez avec des musulmans, parce que il faut trouver un juste équilibre. On peut pas dire « Oh, bonjour monsieur, comment allez-vous ?» C'est pas possible. Alors, le problème, en fait, c'est que nous aussi, on va avoir des problèmes quand on va parler avec les musulmans. On va être tiraillé entre deux tendances. D'un côté, on a envie d'être gentil, oui, on a envie de... On sent bien qu'on ne peut pas clasher l'autre, on sent bien qu'on ne peut pas aller comme aux croisades, quoi. Enfin, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas sortir votre épée et puis taper. Il va falloir quand même arriver à trouver un terrain d'entente, il va falloir trouver une certaine proximité, il va falloir savoir écouter, ne serait-ce que ça, il va falloir savoir être assez consensuel, au moins dans un certain point, au moins dans une certaine mesure. Et d'un autre côté, il faut quand même aussi un peu parler de notre foi. Il faut aussi comme un peu interpeller l'autre. On peut pas en rester à un dialogue vraiment vain, à dire oh, c'est bien, toi tu crois en Mahomet, moi je crois en Jésus, bon c'est bien, on est tous les deux croyants, bon. Au bout d'un moment, ça va tourner en rond. Donc il va falloir quand même trouver une certaine approche, je dirais dogmatique, pas dans le mauvais sens du mot, mais au moins une approche qui va au fond des choses, qui va aussi sur les différences et qui en reste pas à la superficie des choses. Et donc ces deux attitudes, elles ont leurs extrêmes et donc elles ont leur puits sans fond. Vous pouvez tomber, si vous cherchez en permanence à être dans l'écoute, à être dans la compréhension, à être dans la sympathie, vous pouvez tomber très vite dans un relativisme qui mène à rien. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien, toi t'as l'islam, moi j'ai... Enfin, il va vous dire c'est bien, toi t'as l'évangile, toi t'as la Bible, et puis moi j'ai le Coran, c'est bien, c'est comme ça, et puis mais moi je respecte, et puis toi tu respectes. Mais bon, au bout d'un moment, ça n'avance à rien. Et d'un autre côté, si vous vous enferrez dans une discussion forcenée sur la Trinité, si vous assénez les arguments les uns après les autres comme des coups de Charles Martel, au bout d'un moment, vous allez sentir que ça bloque, quoi. Enfin, et c'est normal. Les musulmans, ils sont comme tous les autres, et s'ils sentent que ce que vous aimez derrière eux, c'est vous et vos arguments, ils vont très vite le sentir, et le contact va vite tourner vinaigre. Et donc ça nous oblige à trouver un équilibre, encore une fois, c'est-à-dire à établir un certain climat propice. Propice à quoi ? Propice à une annonce explicite de la foi. Le but, c'est pas de rester dans le dialogue pour être dans le dialogue. Le but, c'est de vraiment annoncer l'évangile, donner le noyau de notre foi et ne pas renoncer à la confronter avec des faux enseignements d'une fausse religion. Voilà. Et pour ça, y a peut-être des astuces à trouver, vous voyez. Alors quand on fait du porte-à-porte et que la personne nous laisse rentrer chez elle, c'est du pain béni, parce que ça peut être difficile si on se fait jeter, si on se fait bouler. Mais en même temps, si on est chez elle, là c'est gagné, parce qu'on est dans un certain climat de familiarité à partir du moment où on est sur son canapé avec une tasse de thé à la menthe. Mais on peut trouver aussi des astuces. Par exemple, dans la rue, on peut inviter des musulmans à venir boire un café avec nous. Ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool, mais le café, il n'y a pas de problème. On peut même, si on a des bons contacts, par exemple à l'université, proposer des dîners, proposer un contact qui soit humain. Parce que ce genre de contact, il faut que ça passe aussi par un élément humain. On ne peut pas en rester juste aux idées. Il faut que les deux soient un peu mêlés. Voilà. Bon, après ça, il faut bien se rendre compte quand même d'une chose, c'est que l'islam... c'est pas une religion. En fait, l'islam, c'est un peu plus qu'une religion. Et nous, quand on parle de religion, en fait, on parle de la religion catholique, de la religion chrétienne, mais de pas grand-chose de plus, en fait. Parce que le christianisme qui a fondé notre culture, qui a fondé l'Occident, qui a fondé la France en particulier, va déterminer une certaine architecture, en tout cas une certaine relation du naturel avec le surnaturel, du politique avec le spirituel. Une certaine relation entre ce qui est proprement juridique et ce qui est propre à une loi et ce qui est de l'ordre de la loi naturelle et des commandements. Vous voyez, donc tout ça va établir des relations entre la culture, qui peut varier, et la religion. On peut être indien d'Amérique et catholique. On peut être américain et catholique, on peut être allemand et catholique, on peut être russe et catholique, on peut être de toutes les cultures possibles du monde et catholique. Et quand on est catholique, on ne va pas écraser, on ne va pas imposer une certaine culture. Vous voyez, l'Église a eu beaucoup de soins pour ne pas imposer le latin à tous les peuples qu'elle évangélisait. Et quand il y avait des peuplades qui avaient connu l'Évangile en grec ou connu l'Évangile en malabar, elles respectaient ces rites, elles respectaient une certaine diversité des cultures. Donc ça, c'est très important. Et l'islam, justement, ne permet pas ça. Et l'islam, justement, n'est pas une religion comme ça. Parce que l'islam... c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'une spiritualité, c'est plus qu'un prophétisme. L'islam, c'est aussi un code juridique, un code hygiénique. Je vais vous le montrer tout à l'heure, ça va être marquant. c'est aussi un projet politique de domination du monde par la guerre, s'il le faut. Pas obligatoirement, mais s'il le faut, pourquoi pas. Et c'est aussi tout un code, de relation avec les femmes, tout un code de relation avec les étrangers, tout un code de relation très précis sur, je vous fais pas de dessin, mais sur la manière dont on va aux toilettes, par exemple. Donc ça, il faut en être conscient que quand on parle avec des musulmans, la plupart du temps, leur foi, parce qu'il y a aussi des exceptions, il y a aussi des musulmans qui sont très occidentalisés, mais la plupart du temps, leur foi est très, très marquée par les rites, très marquée par des choses qui pour nous semblent totalement annexes. Et donc ça doit nous interpeller, et nous aussi on a un peu ce devoir de les interpeller. Pourquoi c'est important pour toi de te laver l'oreille droite avant l'oreille gauche et le gros orteil droit avant le gros orteil gauche pour prier? Ça sert à quoi de se laver le gros orteil pour prier? Voilà, ce genre de choses. Je ne te parle pas de tourner la tête à droite ou à gauche, je te demande comment tu pries. Qu'est-ce que tu dis à Allah quand tu pries? Je ne te demande pas ce qu'il faut faire, je ne te demande pas le nombre d'inclinations, je ne te demande pas qu'est-ce que tu dis quand tu pries? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi prier? Quel est ton rapport avec Dieu? Je ne te demande pas si tu fais le ramadan, ou si... je te demande une religion, je ne te demande pas des codes de pratique. Vous voyez, en ce sens, l'islam qui se prétend une religion post-chrétienne, elle est restée dans un pharisaïsme qui surpasse ce qu'on peut lire des pharisiens dans l'évangile. Donc ça doit aussi nous interpeller, et c'est aussi une arme, vous comprenez bien, pour des musulmans qui sont quand même habitués à une certaine culture occidentale, pour les remettre en question, en tout cas pour essayer de leur prendre conscience qu'il y a certaines choses qui peuvent être carrément illogiques pour nous. Alors, je vous propose un petit passage sur l'habillement. Est-ce que vous voyez un peu comment s'habille un salafiste? Vous savez, les salafistes, ils ont une grande barbe, mais ils ont la moustache complètement taillée. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a un hadith, c'est-à-dire une parole de Mahomet, qui dit « D'après Ben Oumar, le prophète, c'est-à-dire Mahomet, déclara qu'il fallait respecter 5 choses traditionnelles. La circoncision, se raser le pupitre, s'épiler les aisselles, se rogner les ongles et se tailler la moustache. » Vous voyez, donc comme on a ces 5 règles qui sont rappelées par Mahomet, bah les musulmans qui sont dits salafistes, c'est-à-dire qui veulent respecter les devoirs des anciens jusqu'au bout, ils appliquent strictement à la lettre ça. Et vous savez aussi pourquoi ils portent ce genre de pantalon? Vous savez, les pantalons qui s'arrêtent aux chevilles. Et bah, écoutez bien. D'après Abu Hurayra, le messager de Dieu, c'est-à-dire encore Mahomet, déclara « Toute la partie du vêtement qui est au-dessous des chevilles ira en enfer. » Voilà. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle certains musulmans, quand on dit salafiste, qu'on dit, disons... Oui.
Je vais faire un peu l'avocat du diable. Dans l'Ancien Testament, alors je sais qu'il y a une nouvelle alliance et tout, dans l'Ancien Testament, il y a des préceptes comme ça, il n'y a pas le droit d'avoir de franges,
oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr que, en fait, l'islam reprend certaines. En tout cas, l'islam imite certaines marques comme ça du code du Lévitique ou de manière assez étrange. Mais après, justement, notre foi, nous, elle ne s'arrête pas à l'Ancien Testament, et notre foi, elle est toute formée par l'enseignement de Jésus-Christ et par les dépassements qu'il a mis à certains préceptes qui étaient compris de manière trop primaire, je dirais. Donc, eh ben, il ne faut pas s'en effrayer, et de nous, de notre côté, il faut qu'on puisse interroger les musulmans sur ces pratiques-là. Est-ce que ça te semble logique? Pourquoi? Explique-moi pourquoi il faut que le vêtement s'arrête aux chevilles. Bon, je continue, après on fera une séance de questions un peu plus détaillée. Après, il y a certaines impasses qu'on pourrait appeler les impasses de la superficialité. Et souvent, par peur, vous voyez, par pusillanimité, on n'ose pas rentrer dans le vif du sujet. On reste un peu dans le flou, dans le vague. Et surtout si le gars en face de nous, il est costaud, qu'il a une barbe de 2 pieds de long, parfois ça peut nous impressionner. Mais je pense que c'est important justement de prendre son courage à deux mains un peu, et de pas se laisser intimider, de pas se laisser impressionner, et d'y aller franco. Et donc, voilà, vous pouvez dire aux musulmans, ouais, tu dis qu'il y a un seul Dieu, je dis qu'il y a un seul Dieu. Et s'il y a un seul Dieu, il peut pas vouloir qu'il y ait deux manières contradictoires de l'adorer. S'il y a un seul Dieu, alors soit l'enseignement Jésus est vrai, soit l'enseignement Mahomet est vrai, mais pas l'un et l'autre en même temps. Et justement, le but de notre conversation, ça va être de montrer que l'islam et le christianisme sont incompatibles sur de nombreux points. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas rendre du tout service à un musulman de lui faire croire que dans l'évangile, il n'y a pas beaucoup plus que dans le Coran. Parce qu'il y a des pressions énormes qui s'exercent sur un musulman à cause de la communauté, à cause de préceptes qui condamnent à mort ceux qui changent de religion, une fois qu'ils sont dans l'islam. Et du coup, il n'a aucun intérêt à changer de religion si il va rien trouver de plus dans le christianisme. Donc vous, dans votre façon de parler du christianisme, il faut que vous fassiez sentir à quel point c'est différent, à quel point c'est mieux. Et il va falloir aussi que vous fassiez sentir que vous aimez le musulman qui est en face de vous, que vous l'aimez vraiment, mais par contre que sa doctrine, par contre que l'islam, vous pensez que c'est faux et que vous n'aimez pas l'islam. Donc il faut faire sentir ce décalage. Sans être... il ne faut pas que le musulman se sente haï, mais il faut qu'il sente que vous n'adhérez pas à l'islam et que vous pensez que l'islam est faux. Ça va être très important. Alors, il ne faut pas non plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, être trop cash, être trop dogmatique. Il faut être malin. Il ne faut pas non plus toujours taper droit, quoi. Une des bonnes façons de faire, c'est d'amener le musulman à se poser des questions et de prendre certains intermédiaires. Par exemple, au lieu de lui dire « je pense que les musulmans sont très irrespectueux avec les femmes, et je pense que l'islam est très faux vis-à-vis de la femme », ce qu'on pense, hein, on peut lui dire « par exemple, j'ai lu dans un livre que quand on est musulman, on peut faire ça, ça, ça avec sa femme. Et que toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que Dieu peut vouloir ça ? J'ai lu dans tel livre que... Le djihad, ça peut être ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que Dieu veut qu'on fasse ça ? Donc ça, c'est, il faut que vous fassiez... Le musulman, il va se poser très peu de questions. Pour lui, il a reçu un enseignement, il applique cet enseignement. En tout cas, il adhère d'une certaine façon. Et donc vous, il faut aussi que vous essayez de lui faire se poser des questions. Et pour cela, il faut se former. Et il faut lire, parce que c'est pas le tout d'être formé dans le christianisme, et c'est pas le tout d'avoir une vraie volonté qui est louable, hein, une vraie volonté d'évangéliser, une vraie volonté d'aller toucher les musulmans. Il faut aussi certaines connaissances pour pas tomber dans certains panneaux grossiers et avoir des points d'attaque, pour avoir des points de support en tout cas sur lesquels on va pouvoir appuyer notre prédication, appuyer notre petite interpellation. Donc, si vous n'avez pas pris de notes, je vous propose de les prendre maintenant, parce que c'est ce qui va être intéressant. Alors, je vous propose plusieurs auteurs qui sont en vente à la librairie qui est juste au-dessus de moi. Donc, en premier, je vous conseille les livres de Madame Annie Laurent. Annie Laurent, elle a donné une formation dans mon séminaire, dans le Var, il y a la semaine dernière. Et donc, c'est accessible, et en même temps, c'est profond, et c'est sans concession. Donc ça, c'est pour commencer, c'est très bien. Vous avez aussi un autre livre qui a été écrit par un musulman converti qui s'appelle « Jésus et Mahomet » et qui fait un tableau comparatif de la personnalité de Jésus et de la personnalité de Mahomet. Donc si vous ne connaissez pas la vie de Mahomet et si vous voulez interpeller les musulmans sur la personnalité de celui qu'ils sont censés imiter, et bien vous pouvez montrer ça et du même côté, ça vous fera montrer comment Jésus se distingue de Mahomet et comment Jésus est meilleur que Mahomet très concrètement. Je vous conseille aussi les livres de M. Bernard Anthony. Il a écrit plusieurs livres sur l'islam qui sont...
On a sa petite fille.
C'est vrai ? Ah ben bravo. Voilà. Les livres de M. Bernard Anthony sont très bien écrits sur l'islam. Moi, j'ai appris beaucoup de choses comme ça et c'est très bien illustré. Donc, il va chercher des hadiths, les petites formules que je vous ai lues tout à l'heure. Je les lis quasiment tous de cet ouvrage qui s'appelle « Les hadiths de Mahomet, un modèle de vie pour le XXIe siècle ». Il y a aussi un autre spécialiste qui s'appelle François Jourdan. Là, progressivement, on commence à monter en difficulté. François Jourdan, c'est très intéressant. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Et si vous voulez des questions de fond, des questions fondamentales sur l'islam, je vous le conseille vivement. Vous avez aussi les ouvrages d'une universitaire qui est très calée, qui donne de très bonnes conférences, qui s'appelle Marie-Thérèse Urvois. Et qui, elle, est très nette sur l'islam. Et ça, c'est si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus fouillis, je vous conseille, Madame Urvois, c'est très bien. Et dans notre communauté, notre supérieur, il nous conseille pour commencer ce livre qui est très bien fait, qui a une visée, qui est vraiment missionnaire, qui s'appelle l'ABC de l'islam. C'est écrit par un protestant, donc il y a certaines limites au livre. Vous voyez, il y a certaines conceptions protestantes qui vont passer à travers le livre. Donc ça demande aussi une petite formation sur certaines erreurs du protestantisme. Mais en tout cas, en termes d'image, en termes d'accessibilité, en termes tout simplement de pratique, c'est très bon. Et ça donne à la fois des connaissances générales sur le Coran et des conseils très, très concrets pour l'évangélisation. Donc voilà, c'est un peu ma liste de livres. Il y en a d'autres. Vous arrêtez pas à un seul auteur, essayez de puiser largement dans plusieurs. Voilà, je continue parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous mets en garde sur deux points particuliers. Les musulmans vont vous dire « Nous sommes une religion du livre, vous êtes une religion du livre, tout va bien. » Je vous invite fortement à résister à ça parce qu'on l'entend dans les radios, on l'entend dans les journaux. Mais c'est une expression qui est coranique, c'est-à-dire c'est une expression qui est tirée du Coran, et c'est une expression qui est complètement fausse. Parce que ce que les musulmans, le rapport qu'ont les musulmans avec le Coran est fondamentalement, essentiellement différent du rapport qu'un catholique entretient avec la Bible, avec l'Évangile. Pour les musulmans, il existe au ciel un livre éternel, coéternel à Dieu, qui s'appelle la mère du livre. Le Coran, qu'est-ce que c'est ? C'est la retranscription, lettre par lettre, par un illettré qui s'appelle Mahomet, de ce livre, sous la dictée de Djibril, qui est l'archange Gabriel. Donc, les musulmans croient qu'il y a un livre éternel qui correspond, si vous voulez, au décret éternel de Dieu pour les hommes. Et donc, la foi coranique, la foi musulmane, c'est de croire littéralement tout ce qui est écrit dans ce livre et de croire en Mahomet qui en est son prophète. Et ça pose énormément de problèmes. Dans l'islam, Dieu n'est pas objet de révélation. L'islam ne vous dit rien de Dieu, quasiment rien. L'islam vous dit ce que veut Dieu pour l'homme. L'islam vous donne les décrets divins pour l'homme. Et ces décrets, puisqu'ils sont coéternels et puisqu'ils sont dans le ciel, puisqu'ils ont été donnés par l'entreprise de Mahomet sans aucune erreur possible, ou presque, eh bien, ils sont ininterprétables. On n'interprète pas le Coran. On applique à la lettre ce qui est dit dans le Coran. Parce que le Coran, c'est Dieu. Le Coran, c'est tout près de Dieu. Et donc, les musulmans, quand ils vous disent « Vous êtes le peuple du livre », en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent « Vous avez eu une version de ce livre éternel dans le ciel, mais vous l'avez mal compris. Vous l'avez, il y a eu des problèmes, ça s'est faussé à un moment donné, il y a eu des nouveautés qui ont été introduites, il y a eu des erreurs qui y sont mises, vous êtes des fossoyeurs quelque part. » Non, pas des fossoyeurs, des faussaires. Merci de répondre. Vous êtes des faussaires, et moi, je vais vous enseigner le sceau des prophètes, c'est-à-dire ce que Mahomet a dit avec le dernier exemplaire de cette mère du livre, et celui qui est vraiment vrai, celui qui est sans erreur possible. Et donc, les musulmans croient que la Torah, c'est une première copie qui a dégénéré en faute de copie. Les musulmans pensent que Injil, ce qu'ils appellent Injil, qui est l'évangile, parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a quatre évangiles, ils pensent qu'il y a un seul livre. Tout est calqué sur le Coran. Ils pensent qu'il y a un seul livre et qui a été faussé par les chrétiens par des erreurs de copie ou par des nouveautés introduites volontairement, intentionnellement. Ils nous accusent d'avoir faussé l'enseignement de Dieu. Et donc, bien sûr que nous ne concevons pas la Bible comme ça. Bien sûr que nous ne concevons pas l'Évangile comme ça. Et l'Évangile et la Bible et tous les prophètes et toute la Torah et toute la loi, et bien ça correspond d'abord à un pacte d'alliance de Dieu avec les hommes. Et les auteurs qui ont écrit tous les livres de la Bible, des plus anciens jusqu'au dernier en date, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh ben, l'ont écrite avec une certaine patte humaine, sous la dictée de Dieu quelque part, mais pas vraiment sous la dictée. Vous voyez, chaque livre de la Bible, il est 100% humain et 100% divin. C'est à la fois l'œuvre de Dieu et à la fois l'œuvre des hommes. Et donc du coup, il ne s'agit pas de recopier de manière bête et méchante des décrets divins, mais c'est une manière de progresser avec Dieu. C'est ce qui peut répondre un peu déjà à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Les livres de la Bible nous emmènent dans un chemin qui est historique. Pour les musulmans, il n'y a pas d'histoire. Il y a un décret qui est posé éternellement. Et ensuite, il faut appliquer les décrets comme ça. C'est tout. C'est ça l'islam. Donc ça va nous poser des problèmes. Et donc, vous... Ouais.
Mais du coup, l'islam croit à la fin du monde ou pas?
Ah oui, bien sûr. Je vais peut-être en parler après. Il y a toute une théorie des fins dernières dans l'islam. Alors, les apologistes musulmans... Parce qu'il existe des apologistes musulmans, il existe des livres qui sont spécialisés dans la contradiction de l'évangile. Sachez-le, si vous rentrez dans une librairie un peu dure, dans une librairie salafiste, vous allez trouver des trucs qui vont bien vous secouer. Et donc à l'heure où je vous parle, il y a mon supérieur, qui est le père Loiseau, qui est en train de s'entraîner pour donner un peu la réponse à un prédicateur musulman qui s'appelle Karim Al-Nifi, qui est originaire de Molenbeek, vous savez, cette banlieue de Bruxelles d'où sont sortis pas mal de terroristes. Et ce Karim Al-Nifi, il est venu faire une conférence à Toulon, il n'y a pas très longtemps, dans laquelle il essayait de convaincre tous les chrétiens qui étaient présents que Jésus n'est pas un prophète universel, mais qu'il est juste un prophète amené à Israël, et que c'est Mahomet le vrai prophète universel pour tous les hommes. Et donc, ils vont se servir pour ça des textes bibliques, ils vont se servir pour ça de l'Évangile en particulier. Et donc, ce Karim Al-Nifi, il prenait, je ne sais pas si vous voyez, c'est la syrophénicienne. Vous connaissez l'évangile de la syrophénicienne, c'est Jésus part dans le pays de Tyr et de Sidon, et là il y a une femme qui l'implore pour que Jésus sauve sa fille. Et Jésus lui répond, on ne doit pas jeter le pain qui est pour les enfants aux petits chiens. Et donc ce Karim Al-Nifi, il prend cette parabole et dit, vous voyez bien, Jésus est venu pour le petit reste de la maison d'Israël, il n'est pas venu pour les païens. Karim Al-Nifi prend le passage de l'évangile où Jésus part de l'autre côté de la mer de Galilée et où Jésus ne rentre pas dans la ville des Garésiens ou des... je sais plus comment ils s'appellent. Et Karim Al-Nifi dit, vous voyez très bien que Jésus, il vient, mais il repart. Il ne vient pas annoncer l'écriture à ces gens-là. Jésus est venu spécialement pour Israël. Et donc, en fait, il y a toute une torsion de l'évangile qui est faite. Oui.
Du coup, ils prennent ce qu'ils les arrangent dans l'évangile.
Exactement. Parce que si vous leur répondez quelque chose qui les met en contradiction, si vous leur répondez quelque chose qui montre que leur interprétation est évidemment téméraire et évidemment arbitraire, eux, ils vont vous répondre quelque chose de très simple. Ils vont dire, mais ça, ce que tu dis, toi, c'est la falsification des chrétiens. Mais moi, ce que j'ai dit, moi, c'était l'interprétation qui était correcte à partir de la version première de la mère du livre. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Alors, ne vous laissez pas coraniser et n'acceptez pas cette expression de religion du livre. On n'est pas la religion du livre, on est la religion du Verbe incarné. On est la religion de la personne de Jésus et pas d'un livre. On n'a pas un rapport d'adoration avec la Bible et avec l'Évangile. C'est faux. Ensuite, deuxième point qui est important, Jésus. Jésus, c'est un prophète. Mohamed, c'est un prophète. C'est pareil. Alors, là, vous laissez pas avoir parce que. De la même manière que l'islam a un rapport, qui voit tout comme le Coran, l'islam voit tous les prophètes à l'aune du prophète Mahomet. C'est-à-dire que le prophète Mahomet, c'est quelqu'un qui va donner un message divin et qui va donner un bout du livre éternel. Et ben pour les musulmans, un prophète, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui donne un bout du livre éternel de manière littérale, par écrit, ou de manière orale. Adam, c'est un prophète, pourquoi ? Parce qu'il a donné un bout de la loi éternelle, du livre éternel. David, c'est un prophète, pourquoi ? Parce qu'il a écrit les psaumes, et les psaumes, c'est quoi ? C'est un bout du livre éternel. Jésus, il a donné l'évangile, c'est un bout du livre éternel. Moïse, Moussa, il a donné la Torah, c'est un bout du livre éternel. Donc tout est vu sous cet aspect-là. Or, les prophètes, ben, vous savez bien, dans l'Ancien Testament, vous avez eu du cathé, vous avez une formation chrétienne, les prophètes, c'est bien plus qu'un messager, c'est bien plus que quelqu'un qui vient annoncer un bout du livre éternel. Le prophète, c'est quelqu'un qui vient ranimer un rapport de Dieu avec son peuple. Le prophète, c'est quelqu'un qui vient faire vivre une flamme, qui vient faire vivre un amour, qui vient réveiller les cœurs, qui vient transformer les cœurs de pierre pour qu'ils deviennent des cœurs de chair. Ça ne s'arrête pas là. Et donc, du coup, il y a d'autres problèmes. Parce que dans le Coran, le mot en arabe pour dire Jésus, c'est Issa. Isa. Or, dans les évangiles en arabe, parce qu'il y a des chrétiens arabes, le mot pour dire Jésus, c'est Yazou. Yazou, ça veut dire exactement la même chose que Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. C'est un nom qui signifie le messianisme, qui signifie que Jésus, c'est le salut qui est apporté aux hommes. Donc le Coran fait cette transformation qui n'est pas du tout anodine. Le Coran ne reconnaît pas Jésus comme un messie. Le Coran ne reconnaît pas Jésus comme quelqu'un qui sauve. Le Coran ne reconnaît pas que Jésus a été crucifié. Alors je vais vous lire le passage qui le justifie. Donc là, je vous cite pas un hadith comme tout à l'heure, je vous cite directement le Coran, sourate 4, verset 157. Les Juifs ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Vous voyez, Jésus est messager d'Allah, messager du livre. Or, dit le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils n'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc les musulmans croient, parce que c'est marqué dans le Coran, dans le livre éternel, que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il a été enlevé au ciel par Dieu. Et donc du coup, la négation de la crucifixion est aussi une négation de la résurrection. Donc Jésus n'est ni mort ni ressuscité. Et ça, ben, ça va détruire de fond en comble toute notre foi. Donc c'est vraiment, vous voyez, dans le Coran même, il y a des tendances apologétiques qui vont nier profondément le christianisme. Ouais.
Il n'y a pas de preuve historique qui a été crucifié.
Exactement. Vous, quand vous allez discuter avec des musulmans, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu penses de Flavius Joseph? Qu'est-ce que tu penses de tel gouverneur romain qui dit qu'à son époque, il y a des troubles à cause d'un certain Jésus qui a été crucifié? Donc vous voyez, il faut que vous montriez que le Coran a aussi des problèmes avec la réalité. Donc ça va être un des aspects sur lesquels on va travailler la question. Alors, et vous, quand vous allez annoncer Jésus à un musulman, vous allez annoncer un Jésus tel que la Bible le raconte. Vous allez annoncer Jésus tel que les évangiles nous le présentent. Et c'est très important de ne pas laisser le musulman dans son idée même de Jésus, parce que le musulman, il croit connaître Jésus. Il sait qu'il est comme ça, parce que le Coran lui a dit. Vous, justement, vous allez devoir lui dire, Jésus, c'est plus que ce que tu crois. Jésus, c'est pas seulement ça. Vous allez devoir lui dire, moi, je suis la résurrection et la vie, et qui croit en moi aura la vie éternelle. Il va falloir que vous lui disiez que Jésus est celui qui accomplit les prophéties d'Isaïe, les prophéties de Daniel. Donc ça, c'est important aussi de présenter, d'avoir une certaine pédagogie de la personne même de Jésus avec le musulman. Bon, là, je finis en 5 minutes, et après on passera aux questions. En 10 minutes, et après on passera aux questions, pardon. Alors là, je vous ai présenté des points de défense. Ne laissez pas dire que Jésus, c'est comme ce que croit le musulman. Ne laissez pas dire que le christianisme est la religion du livre. Et ne laissez pas le musulman croire que vous avez le même rapport que lui avec le livre. Maintenant, je vais vous proposer des points d'attaque. Des points où vous allez pouvoir secouer un peu le musulman, spécialement s'il partage certaines de nos valeurs, parce qu'il y a plein de musulmans qui sont en France et qui sont quand même baignés dans la culture occidentale d'une certaine façon et qui adhèrent à certaines choses. Donc vous allez vous appuyer sur ce fait-là pour essayer de le secouer un peu, pour essayer de lui montrer qu'il connaît mal sa foi, qu'il connaît mal sa foi, qu'il connaît mal sa religion et qu'il y a plus que ce qu'il croit. Alors désolé mesdemoiselles, mais on va commencer par le rapport de l'islam avec les femmes. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Voilà. Les femmes n'héritent que de la moitié de ce qu'un homme hérite. Sourate 4. Le témoignage de deux femmes est équivalent au témoignage d'un seul homme. Sourate 2. Vous valez deux fois moins qu'un homme, désolé. Les femmes doivent rester tranquillement chez elles, avoir une apparence modeste, et si elles quittent la maison, elles doivent porter le voile. Sourate 33. Donc si un musulman vous dit que le voile, c'est pas dans le Coran, vous lui citez la sourate 33, verset 33. C'est le Coran, c'est bien, le voile, c'est bien dans le Coran. Voilà. Les femmes ne doivent pas regarder les hommes et aucune partie de leur corps ne doit être découverte, sauf devant les membres de la famille très proche. Sourate 24. L'adultère est autorisé pour les hommes avec les femmes esclaves. Sourate 4. Un homme peut divorcer de sa femme en répétant 3 fois la formule de divorce. C'est comme ça que Karim Al-Nifi a dit devant toute l'assemblée, « Mesdemoiselles, le christianisme est plus dur que l'islam pour vous parce que le christianisme empêche les divorces alors que l'islam le permet. » Un homme peut épouser jusqu'à 4 femmes. Mahomet en avait 11. Un homme ne peut traiter équitablement 4 femmes à la fois. Donc à la fois, le Coran vous dit qu'un homme peut se marier avec 4 femmes et en même temps, il reconnaît que ça ne va pas être équitable. C'est pas possible d'être équitable. Toute femme coupable de fornication doit être enfermée jusqu'à sa mort ou lapidée. Voici comment... Alors, pardonnez-moi pour celle-là, elle est assez drue, mais vous avez besoin de l'entendre, je pense. Voici comment les hommes doivent approcher les femmes. Vos épouses sont pour vous comme un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Celle-là aussi, elle est gratinée. Les femmes sont déficientes dans leur raison, en religion et en gratitude. Et enfin, la dernière, l'enfer est peuplé principalement de femmes. Mais de toute façon, vous en trouverez d'autres. Alors, vous risquez de tomber sur certains musulmans salafistes qui vont vous dire « Ouais, mon frère, c'est comme ça, c'est normal, c'est la nature », qui vont aller jusqu'à justifier toutes ces positions-là. Alors là, vous pouvez le titiller encore un peu plus. Par un hadith. 2 ans après la mort de Khadija, qui était la première épouse de Mahomet, en un temps approchant, le prophète contracta un mariage avec Aïcha, sa femme préférée, qui était alors âgée de 6 ans. Il consomma le mariage avec elle lorsqu'elle eut 9 ans. Voilà. Donc celle-là, prenez-la quand même avec des pincettes, elle est assez rude, hein, mais si le gars est vraiment dur, vous pouvez aller jusqu'à lui dire ça. Ça te pose pas de problème, ça te pose pas de problème la conception de la femme? Ça te pose pas de problème que, voilà, cette façon de se marier? Vous voyez, il faut que vous trouviez des armes. Alors je continue rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors je vais vous citer quelques exemples de châtiments qui sont préconisés par Mahomet. Un groupe de 8 hoclites, qui était une tribu d'Arabie Saoudite, était venu trouver le messager de Dieu, le prophète, à Médine. Mais tombant malade, ils lui dirent « Ô envoyé de Dieu, aide-nous à obtenir du lait ». Il répondit « Je ne vois pour cela que ce moyen. Allez donc suivre le troupeau qui est au lieu que je vais vous indiquer. Les hoclites burent du lait et de l'urine de chamelle, retrouvèrent une bonne santé et engraissèrent grâce à ce régime. Alors ils tuèrent le berger, volèrent le troupeau et de l'islam retombèrent dans la mécréance. Or le prophète avait entendu un cri au secours de la victime. Il fit poursuivre les malfaiteurs et le jour se levait à peine quand on les ramena. Alors l'envoyé de Dieu, Mahomet, leur fit couper les mains et les pieds, puis commanda aussi de leur crever les yeux avec des clous rougis au feu. Enfin il les fit jeter dans la pirogue, ils demandaient à boire mais personne ne les abreuva. » Alors voilà le type de châtiment, et il y en a d'autres. Selon Abu Huraira, le messager de Dieu, Mahomet, a prononcé ces mots. Que Dieu maudisse le voleur, s'il vole un casque, qu'on lui coupe la main, s'il vole une corde, qu'on lui coupe la main. Selon Aïcha, le prophète a dit, on ampute la main du voleur pour le vol d'un montant d'un quart d'un dinar. Un quart d'une pièce et on vous coupe la main. Encore un petit. Alors celui-là, c'est du Coran. Hein. C'est pas les hadiths, c'est pas les verissima dicta du prophète Mahomet, c'est directement du Coran. Et ça nous concerne directement, donc ça peut être très intéressant. Sourate 9, verset 29-30. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier. Ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite. Ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. Les juifs ont dit « Uzaïr est fils de Dieu ». Les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Voilà. Ah oui, c'est dans le Coran. Alors voilà, la question qu'on peut poser à un musulman, c'est « Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment... Est-ce que tu penses que Dieu peut vraiment commander ça ?» Est-ce que tu penses que Dieu peut vraiment commander ses châtiments pour les êtres qu'il a créés? Ouais, je t'en prie. Oui.
Du coup,
j'avais une question, mais du coup, la main coupée et tout pour incarner l'IA, ça se fait dans les états islamiques, en ce moment, dans les pays
Je sais pas si vous avez vu, mais... Il y a eu des images qui sont sorties en Afghanistan quand le régime des talibans a pris le pouvoir avant les attentats du World Trade Center. Et on voyait des images très violentes qui ont été reprises par certains jeux vidéo où il y avait des condamnations publiques dans des stades de foot, par exemple, où on lapidait des femmes, où on coupait la main des voleurs. Et là, après la prise de pouvoir de Daesh de certaines régions en Syrie et en Irak, il y a eu des témoignages de personnes qui ont eu la main coupée pour des trafics sur les marchés, vous voyez. Donc il y a des juges de paix qui se baladaient sur les marchés et qui faisaient respecter à la lettre la charia, c'est-à-dire la loi juridique, le code juridique islamique, et qui allaient jusqu'à couper les mains. C'est normal, c'est marqué dans le Coran, vous n'avez rien à dire.
Oui, mais là, c'est des États terroristes. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, le pays Qatar, c'est...
En Arabie Saoudite, j'ai pas de témoignage direct pour le couper la main, mais en tout cas, si quelqu'un se convertit au christianisme, il est mis à mort. Dans d'autres pays, comme par exemple au Maroc, il sera juste emprisonné. Mais enfin, c'est quand même une persécution. Voilà, bon, il y aura d'autres textes à montrer. Enfin, si vous voulez, je peux vous en montrer d'autres. Mais enfin, c'est aussi important que vous puissiez poser quelques questions. Donc, je vous en prie, s'il y a des choses qui vous interpellent. Oui.
Du coup, vous avez dit que vous devez suivre à la lettre le Coran. Mais alors, pourquoi il y a des différentes interprétations? Il y a des musulmans qui sont radicaux et qui suivent à la lettre, et d'autres qui les interprètent différemment.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire le Coran, mais le Coran, c'est... incroyablement difficile. Le Coran, c'est pas une histoire. Le Coran, les sourates ne sont pas classées dans l'ordre chronologique de révélation. Ils sont classés de la plus grande sourate à la plus petite. Et dans les sourates du Coran, il y a un système qu'on appelle le système abrogeant-abrogé, qui veut que certaines sourates qui ont été reconnues plus anciennes sont abrogées, c'est-à-dire sont sans valeur par rapport à d'autres sourates qui sont reconnues plus récentes. Donc ça va poser des problèmes infernaux pour l'interprétation de ce qui doit être appliqué plutôt que l'autre. Et il y a des passages qui sont très confus. Donc par exemple, il y a des passages où on dit il ne faut pas couper la main, il faut couper la main. Donc un musulman, il pourra toujours vous dire par exemple, ah mais il y a ce verset là où on dit que si un homme a tué quelqu'un d'autre, c'est comme s'il avait tué la terre entière. Mais oui, mais il faut savoir que dans certaines interprétations, dans des pays assez rudes, par exemple en Arabie Saoudite, eh ben, on pense que ce verset-là que le musulman vous cite est abrogé par un autre qui est plus violent derrière. Parce que le problème de Mahomet, c'est qu'au début, il serait, je mets des guillemets parce que c'est pas sûr, il aurait été un prophète à la Mecque, et que dans cette période qu'on dit mécoise, eh ben, il aurait, disons, essayé de faire progresser l'islam de manière pacifique. Et qu'ensuite, comme son enseignement a été rejeté par les tribus de la Mecque, il s'est réfugié à Médine, qui était l'ancienne ville de Yathrib, et que dans cette ville, il a formé un clan guerrier, un clan musulman, et qu'ensuite, il a réussi à propager l'islam par la guerre, par la bataille, par le combat, à partir de cette ville. Et donc, il y a certains versets qui proposaient, disons, une vision pacifique de prédication à la Mecque, qui vont être abrogés par des versets plus guerriers de Yathrib, qui eux voient vraiment la force comme une bonne occasion de répandre l'islam, très efficace en tout cas. Et donc oui, alors il n'y a pas vraiment d'interprétation de l'islam, parce que toute interprétation rationnelle a été condamnée au XIIe siècle, au XIe siècle si je m'abuse. Par contre, il y a des écoles juridiques différentes qui vont mettre l'accent sur tel ou tel aspect du code juridique, qui vont mettre l'accent sur tel ou tel hadith, qui vont mettre l'accent sur tel ou tel telle interprétation mineure, si on veut. Mais en tout cas, si un musulman applique le Coran, si un musulman approfondit le Coran, il va tomber sur des choses qui sont extrêmement violentes, non seulement pour la dignité de la femme, mais aussi pour la violence, mais aussi pour la prière, des choses très étranges, par exemple... Si un chien passe devant vous pendant que vous êtes en train de prier, votre prière est annulée. Si une femme passe aussi, ça marche pareil. Ouais. C'est compliqué. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, non pas pour s'en moquer, mais aussi pour amener les musulmans à réfléchir sur ça. Parce que je pense qu'au XXIe siècle, ce genre de choses devient de plus en plus dur à tenir. Voilà. Une autre question ? En fait, ça fait. Disons qu'un musulman qui est malin, qui est rusé, il va vous dire qu'il y a certaines parties qui en font partie, parce que c'est des parties qui n'ont pas été falsifiées, mais qu'il y a d'autres parties qui sont falsifiées. Et l'interprète qui va dire quelles sont les parties falsifiées et quelles sont les parties non falsifiées, bien sûr, c'est lui.
Mais du coup, pour eux, ça veut dire que le crucifixion de Jésus, du coup, c'est une partie falsifiée.
Exactement, voilà. C'est ce que dit le texte même du Coran que je vous ai lu, c'est que c'était un faux semblant, ils ont menti. Oui, à droite. Eh bien, il y a le Coran. Le Coran, c'est le livre éternel. Après, ils vont dire que c'est falsifié parce que ça ne correspond pas avec leur interprétation qui a pour fondement la loi coranique. Donc, pour leur souci apologétique, ils vont vouloir affirmer certaines thèses. Et ce qui va les contredire, ça va être ce qui est falsifié. Donc ça aussi, c'est intéressant. Vous devez dire aux musulmans, mais écoute, c'est trop facile ton truc. On prend l'évangile, et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui t'arrange, tu dis que c'est bon. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui ne t'arrange pas, tu dis que c'est falsifié. Tu ne trouves pas ça arbitraire ? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un certain terrain d'entente ? Comment tu fais pour savoir ce qui est falsifié de ce qui n'est pas falsifié ? Donc il faut aussi, quand ça vous paraît injuste, il faut le dire. Quand ça vous paraît ultra bizarre, il faut le dire clairement. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais sache que je trouve que c'est pas normal que tu utilises le texte comme ça, comme, à ta guise, comme ça te chante. Oui.
Du coup, il disait que Jésus, c'était hindou, c'est ça, un faux semblant.
Que la crucifixion est un faux semblant, oui.
Du coup, il nie pas la crucifixion.
Alors, exactement.
Il y en a une, mais que c'était pas Jésus.
Exactement. En fait, il y a plusieurs interprétations différentes suivant les écoles, mais la plupart des musulmans, s'ils sont un peu formés, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'en fait, il y a eu un remplaçant. C'est-à-dire que Jésus s'est mystérieusement dérobé et qu'il y a quelqu'un qui a pris son apparence, qui a été crucifié à sa place. En fait, la raison profonde de ça, c'est que les musulmans identifient tous les prophètes à Mahomet. Et donc, un prophète, ça doit ressembler à Mahomet. Un prophète, ça doit être victorieux. Un prophète, ça doit être triomphant. Vous voyez, un prophète, ça doit être rempli de la force de Dieu à tout moment. Et donc, quand saint Paul nous dit la croix, c'est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens, c'est aussi un scandale et une folie pour les musulmans. Les musulmans ne peuvent pas admettre la croix, parce qu'un prophète, ça doit gagner. Et donc, beaucoup vont vous dire, par exemple, que c'est Judas qui a remplacé mystérieusement Jésus. Et ce que vous pouvez leur répondre à ce moment-là, c'est pourquoi Dieu a décidé qu'il y aura une crucifixion, et pourquoi Dieu a décidé de tromper les hommes en faisant comme si c'était Jésus, en faisant un miracle pour que Judas prenne la tête de Jésus, alors qu'en fait il a enlevé Jésus au ciel. Pourquoi ? Explique-moi. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, à chaque fois que vous trouvez quelque chose d'illogique, vous le dites. Je ne comprends pas pourquoi Dieu aurait fait ça. Pour moi, Dieu, c'est le verbe. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est la raison. Dieu ne fait pas des choses insensées. Dieu ne demande pas des choses qui n'ont pas de sens. Dieu ne demande pas qu'on fasse tout avec la main droite, sans raison. Voilà. Oui.
Les musulmans croient à la Vierge Marie.
Les musulmans croient à la Vierge Marie, mais c'est aussi compliqué.
Ouais, c'est
parce que dans le Coran... Dans le Coran, il est dit... Dans le Coran, il est dit que Jésus est né virginalement de Marie, mais le problème, c'est que cette Marie-là, c'est en même temps la sœur d'Aaron. D'Aaron. Alors, Aaron, vous savez, c'est le frère de Moïse. Donc, avec les interprétations les plus cool, il y a au moins 1400 ans d'écart, vous voyez. Donc ça, il faut aussi le dire. Voilà, je comprends pas comment Marie peut être à la fois la mère de Jésus, alors que Jésus, on sait historiquement qu'il a vécu à l'époque de Tibère. Et qu'en même temps, Marie, donc sa mère, soit la sœur d'Aaron. Parce qu'en fait, il y a un mélange des textes, vous voyez. C'est que l'islam, ça sort un peu du christianisme, il faut le savoir. Ça sort un peu de certaines sectes chrétiennes. En tout cas, ça sort d'un certain prophétisme juif. Ça sort d'une certaine connaissance de certains textes chrétiens. Il y a une certaine filiation. Mais c'est une filiation qui est extrêmement confuse. Et donc, il y a certains textes chrétiens qui vont sortir, il y a certaines idées, il y a certaines images, il y a certaines traditions, mais tout va être dans un tel désordre que ça va être extrêmement compliqué. Donc, dans l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, il me semble, ou du Deutéronome, vous avez effectivement une Mariam qui est sœur de Aaron. Mais ça n'a pas de sens, vous voyez, on ne peut pas identifier aussi facilement deux personnages qui sont séparés par le temps et aussi par les livres. Voilà. Oui. Ah oui, alors la fin du monde. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Les musulmans ont une vision extrêmement réductrice du paradis et de l'enfer. Ils croient comme nous qu'il y aura un paradis et un enfer. Ils croient comme nous qu'il y aura une fin des temps. Ils croient comme nous que Jésus va revenir, ce qui est très étrange. Ils croient comme nous qu'il y a un antéchrist qui va revenir. Ils croient aussi dans le Mahdi, qui est une espèce de chef politique qui va surgir avant l'antéchrist. Et tout ça est assez compliqué. Et en tout cas, un passage que je peux vous citer, c'est que, enfin en tout cas, seuls les musulmans seront sauvés. Mais vraiment strictement les musulmans, ceux qui ont prononcé la shahada, ceux qui ont prononcé la formule de confession musulmane. Et donc nous, les chrétiens, on va rougir, on va chauffer, et l'enfer va nous aspirer. Voilà ce que les musulmans nous disent. Pourquoi ? Parce que nous faisons le shirk. Le shirk, c'est l'association. C'est-à-dire que nous associons d'autres divinités à Dieu. En fait, ils ont une foi qui est extrêmement anti-trinitaire. Et pour eux, nous croyons en Dieu, en son Fils et en la Sainte Vierge Marie. Et du coup, vous voyez, c'est tout est extrêmement confus, tout est extrêmement mélangé. Et donc, comme ils ont cette déformation, comme ils croient savoir ce que c'est qu'un chrétien, en fait, ils pensent qu'on a galvaudé le monothéisme et que nous croyons en trois dieux. Donc là, ça ne va pas être une partie de plaisir, il va aussi falloir expliquer la Trinité. Je vous conseille de prendre un peu de temps, parce que enfin, ce n'est pas évident d'expliquer les concepts, nature, personne, ça ne coule pas de source vraiment. Donc il faut prendre du temps, à mon avis, c'est quelque chose qui vient un peu sur la fin, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement complexe à leur faire comprendre que nous ne sommes pas des polythéistes, que nous n'adorons pas trois dieux. Et comme ils pensent que nous associons Dieu à d'autres dieux, que nous associons plutôt d'autres dieux à Dieu, eh bien, ils pensent qu'il n'y a aucun paradis qui est possible pour nous. Et non seulement ils croient à ça, mais en plus ils croient à une double prédestination stricte. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths, et même je crois des versets du Coran, j'ai du mal à me souvenir, mais il y a les deux en tout cas, où on dit ben, un homme qui a fait tout ce qu'il faut pour aller au paradis, même s'il n'est plus qu'à un cheveu du paradis, si Allah ne veut pas qu'il aille au paradis, il n'ira pas au paradis. Si un homme a fait tout ce qu'il faut pour aller en enfer, et s'il n'est plus qu'à une largeur de main de l'enfer, si Allah veut qu'il aille au paradis, il ira au paradis. Et donc il y a vraiment une espèce de destinée qui est très pesante et qui pèse sur les musulmans. Ils disent souvent « maktoub », ça veut dire « c'est écrit ». C'est-à-dire que toute votre vie est écrite à l'avance. Et que, en fait, les causes secondes sont complètement gommées. Votre liberté est complètement gommée. Donc ça peut être intéressant parce que le musulman, il peut être angoissé du salut, vous voyez. Il peut se dire, est-ce que mes péchés sont pardonnés ou pas? Je ne sais pas. Alors que, vous voyez, nous, par rapport au sacrement, eh bien, on a une certaine confiance qui nous est apportée en Dieu. On ne peut pas avoir l'assurance totale d'être sauvé, d'être en état de grâce, mais au moins, on a une espérance, une vertu théologale. Et donc ça, il faut aussi le mettre en avant, que le christianisme, ce n'est pas juste une haine servile, enfin une dépendance servile de Dieu, que le christianisme a aussi un rapport de filiation avec Dieu. Voilà, une dernière question et puis après on arrêtera. Laquelle d'entre vous n'a pas posé la question ?
Juste, elle est née comment la religion
islamique ? C'est une excellente question, c'est très difficile à savoir. C'est très difficile à savoir parce qu'il semblerait que l'islam, que le Coran a été assez largement manipulé, et qu'il y ait des réécritures, et qu'il y a eu plein de zones d'ombre sur l'écriture du Coran. Aujourd'hui, il y a plusieurs spécialistes donc, qui se battent, hein, c'est très controversé. Certains spécialistes que vous rencontrerez, si vous étudiez, vont vous dire qu'on n'est même pas sûr de l'identité de Mahomet, on n'est même pas sûr de l'existence de la Mecque au 7e siècle. On n'est pas sûr de plein de choses sur l'islam. Et donc, on voit certaines influences. On voit certains trucs polythéistes, par exemple la Kaaba, l'espèce de pierre noire autour de laquelle ils tournent à la Mecque. On voit qu'il y a certaines influences de ce genre. On voit qu'il y a certains apports du christianisme, il y a certains apports du judaïsme. Mais la question des origines est très très floue. Et il semblerait, par des indices, des pièces de monnaie, des indices archéologiques et des indices un peu techniques, qu'il y ait de gros problèmes et de grosses divergences entre ce que l'islam présente de lui et ce qu'il a vraiment été. Donc, il y a un docteur de l'Église pour ça qui est très bien. C'est Saint Jean Damascène. Donc, c'est un docteur de l'Église qui a vécu à l'époque de l'islam et qui présente l'islam sous un jour comme assez considérablement différent de ce que nous présente l'islam de lui, alors qu'il connaissait, on le voit assez bien, la foi de ceux qu'il avait en face de lui. Donc voilà, si vous voulez faire des études un peu sur ces questions-là, ça peut être très intéressant de lire Saint Jean Damascène, c'est un chapitre, c'est pas très long. Voilà. Bon, j'ose pas trop vous retenir parce que j'ai pas envie de faire durer la conférence plus longtemps. Mais bon, si vous voulez en rediscuter, je reste là jusqu'à vendredi midi. Vous me verrez peut-être à l'abbatiale ou au réfectoire des hôtes en train de goûter. Voilà. Et puis, je vous renvoie à ça, parce que là, vous avez un petit aperçu, mais vous voyez que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une formation qui soit précise. L'ABC de l'islam, Bernard Anthony, Annie Laurent, François Jourdan, voilà, je vous les conseille vivement. Voilà. Le Coran, attention, hein, ça va être rude.